Les Polars de pleine vie. Volte-face. Une nouvelle de Paola Cecilia Lanzi. Gersande et son époux ne faisaient désormais que se croiser dans leur grand château. Pourquoi avait-elle tant tenu à ce qu'ils dînent ensemble ce soir-là? Romain regardait d'un œil torve Gersande décortiquer ses gambasses. L'acharnement qu'elle y mettait lui rappelait ses années de lycée quand, lors des cours de sciences naturelles, ses camarades prenaient plaisir à disséquer les grenouilles. C'était une jolie femme, issue d'un milieu aristocratique, mais ses manières de faire révélaient chez elle un instinct de prédateur. Ne lui avait-elle pas raconté avec force détail ses souvenirs de chasse à cour que ses parents, encore argentés à l'époque, organisaient sans état d'âme? Ils n'étaient pas du même monde. Romain venait d'un milieu modeste, où dans chaque famille, on possède un lapin, un chat ou un chien, et ce manque de sensibilité envers les animaux l'ulcérait. Mais s'il détestait ces gens pleins de morgue et d'inhumanité, il n'en enviait pas moins le cadre souvent somptueux dans lequel il vivait. C'était le cas de Gersande, et il avait su faire taire ses ressentiments quand il l'avait rencontrée. Ses ambitions passaient avant tout, et il se serait bien vu annoncer à sa clientèle qu'il résidait dans le château qu'elle possédait encore, grâce à un providentiel mariage. Les parents de Gersande, ruinés, ne lui avaient rien laissé à leur mort, que des dettes. Elle avait alors 25 ans, mais avait très vite rebondi en épousant celui qui s'était porté acquéreur de leur domaine, Michel Plantin, un roturier. Cette union avait dû faire retourner père et mère dans leur tombe, mais la jeune fille était du genre pragmatique. Ce propriétaire d'une chaîne de supérettes lui avait ainsi permis de retrouver en partie le train de vie qu'elle avait connu naguère. Romain était le notaire de ce dernier, et ce fut à l'occasion de son décès prématuré qu'il rencontra pour la première fois sa jolie veuve, qui l'avait convoquée pour lui faire lecture du testament. Elle ne semblait pas vraiment affligée par la perte de son époux, car elle lui avait narré, l'œil sec, les circonstances de sa tragique disparition qu'il connaissait en partie pour les avoir lues dans le journal local. Le défunt adorait la pêche. Non que ce passe-temps ait offusqué Gersande, car nombre de ses amis étaient adeptes de la pêche au gros, qu'ils pratiquaient depuis leur yacht en haute mer. Mais Michel s'adonnait à un autre genre, on ne peut plus vulgaire à ses yeux. Il se plaisait à taquiner le poisson en bord de rivière, en compagnie de quelques habitants du village tout proche. Ce jour-là, comptant devancer ces derniers qui se moquaient qu'il n'ait jamais réussi à attraper que quelques malheureux goujons, alors que la rivière regorgeait d'énormes brochets, il était parti dès les premières lueurs du jour pour ne jamais revenir. La police fluviale avait ratissé la rivière sur plusieurs kilomètres et n'avait retrouvé que sa canne à pêche où restait accroché un lambeau de sa chemise, flottant en aval au milieu de branchages emportés par le flux. On en avait conclu qu'il avait enfin réussi à ferrer l'un de ces fameux brochets dont la taille pouvait dépasser le mètre et s'était laissé entraîner par celui-ci jusqu'à se noyer et se trouver emporté vers l'estuaire. On l'avait alors déclaré officiellement mort. Romain ne s'était pas attardé en condoléances, comprenant que la veuve n'en avait que faire et en était rapidement venue à la lecture du testament. Michel n'ayant aucune famille, elle l'héritait de la totalité de ses biens. Elle ne s'était jamais mêlée des affaires de son mari, le mot « supérette » n'entrant pas dans son vocabulaire. Elle ne se voyait donc pas prendre la succession de ce commerce si ordinaire et avait chargé Romain de lui trouver un repreneur. Celui-ci s'était alors vu contraint de lui annoncer que, touché par la crise, son conjoint avait tout liquidé quelques mois plus tôt. Une certaine somme lui revenait cependant, mais plutôt modeste, qu'il lui faudrait gérer prudemment sous peine de la voir fondre rapidement. En tant que notaire de son mari, il avait proposé à la veuve de s'occuper des placements éventuels qu'elle pourrait faire pour optimiser ce petit patrimoine. Elle avait demandé à réfléchir et lui avait promis de lui donner rapidement sa réponse. Sur le pas de la porte, lui serrant la main, il l'avait alors gratifié de ce regard enjôleur qu'il savait poser sur les femmes et qui généralement faisait mouche. Il était doté d'un physique plutôt avantageux, ses succès auprès de la gente féminine ne se comptaient plus et sa cliente ne pouvait pas y rester insensible. Comme il l'avait espéré, elle n'avait pas tardé à donner de ses nouvelles et signer son accord pour qu'il administre le dossier de ses avoirs. Ils étaient donc amenés à se revoir souvent. Il ne lui restait plus qu'à peaufiner sa méthode de séduction qui amènerait Gersande à s'attacher à lui. Il était roturier, certes, mais au contraire de l'époux défunt, on le considérait dans la région comme un notable. De plus, il possédait un solide compte en banque. De sérieux atouts qu'elle ne manquerait pas d'apprécier. La belle avait mordu à l'hameçon et au bout de quelques mois de liaison, après avoir pesé le pour et le contre, ils avaient décidé de se marier, chacun trouvant son compte en cette union. Il devenait châtelain, elle serait à nouveau à l'abri du besoin. Il avait donc à emménager chez elle et très vite s'était mis à convier à dîner ses clients les plus importants. Sa moitié, quant à elle, avait renoué avec quelque aristocrate qui lui avait battu froid lorsqu'elle avait épousé Michel. Ils formaient un très beau couple et dans le pays, on les admirait et les respectait. Tout le monde s'accordait à dire qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, ce qui aurait pu être vrai car tous deux possédaient le même esprit calculateur qui les avait fait se réunir. Mais très vite, ils commencèrent à se quereller pour une question primordiale aux yeux de Romain, l'argent. Gersande, sachant pourtant que son héritage n'était pas inépuisable, s'était mise à dépenser sans compter. Michel, son ex-mari qui ne connaissait du monde du cheval que celui du PMU où il y allait de son tiercé chaque dimanche, avait toujours refusé qu'elle fasse réhabiliter les écuries. Cela avait été chose faite 2 mois après son mariage avec Romain. Il avait eu peu de temps après la désagréable surprise de l'avoir ramené au domaine 2% dont la facture l'avait fait blêmir. Comme il lui faisait âprement remarquer qu'à ce train-là, il ne resterait bientôt plus rien de son legs, elle avait rétorqué qu'elle comptait bien le voir pallier cet inconvénient. Sa clientèle, disait-elle, s'était accrue et avait monté en qualité depuis que l'on savait dans la région qu'il était devenu châtelain. N'oublie pas que grâce à moi, tu peux à présent organiser des dîners pour les édiles du pays et que notre député t'a confié son patrimoine à gérer. Cela mérite un peu de reconnaissance de ta part. Romain se sentait floué. Les intentions de son épouse étaient de redonner à son château son éclat d'antan, ce que la pingrerie de son ex-mari, disait-elle, avait empêché. Un projet d'envergure qu'il avait été loin d'imaginer en l'épousant. Celle-ci allait, s'il ne la stoppait pas dans son élan, le mener à la ruine, car il avait eu la funeste idée d'ouvrir à la banque un compte commun. Elle pouvait donc y piocher sans lui demander son avis. Au bout de quelques semaines, il ne restait plus rien de l'héritage et elle continuait de faire ses emplettes dispendieuses sans qu'il ait trouvé le moyen de l'en dissuader. Elle avait dû embaucher un palefrenier pour s'occuper de ses chevaux, puis un jardinier. Ce dernier avait pour mission de redessiner les allées du parc afin de rendre à celui-ci son aspect initial. Si Romain n'avait pas rechigné à garder à son service la cuisinière et la femme de ménage, indispensables dans cette grande demeure et qui travaillaient au château depuis des années, l'arrivée de ses 2 nouveaux employés, en revanche, l'avait mis hors de lui. Son exaspération était parvenue à son comble quand, en rentrant un soir, il avait découvert dans le grand salon un immense tapis persan qui couvrait la moitié du parquet à la française. Il avait alors piqué une terrible colère, mais Gersande ne s'était pas démontée. « Tu me remercieras plus tard, cet achat est un investissement, crois-moi » Romain ne voyait pas les choses de la même façon. Ce soi-disant investissement venait de creuser un énorme trou dans son compte en banque. Ils étaient heureusement mariés sous le régime de la séparation de biens. Dès le lendemain, il s'était précipité chez son banquier et avait fait retirer les économies substantielles qu'il avait fait placer sur leur compte épargne dont sa femme ignorait l'existence. Il s'était rendu ensuite dans une autre banque et y avait déposé la somme sur un nouveau compte en son seul nom. Le soir même, il annonçait à son épouse son intention de divorcer. Gersande, sans un mot, s'était alors ruée dans la chambre, y avait débarrassé toutes ses affaires et était allée s'installer dans l'une des 10 autres en rénovation. Depuis ce jour, elle s'était murée dans un silence hostile, et il ne faisait plus désormais que se croiser. Quand il rentrait de son étude, il la voyait quitter le château pour se rendre il ne savait où. Elle avait pris l'habitude de sortir le soir, et il l'entendait revenir tard dans la nuit. Où pouvait-elle passer ses soirées? Il n'en avait pas la moindre idée, mais il s'en fichait. Il avait entamé la procédure de divorce et attendait avec impatience cet heureux dénouement. Ce soir-là, exceptionnellement, Gersande était là lorsqu'il rentra, et il l'avait vue avec surprise prendre place à table. Cela faisait bien 3 mois qu'ils n'avaient pas partagé le même repas. Que mijotait-elle? Comme elle demeurait muette, il en profita pour lui annoncer qu'il se rendait le surlendemain au congrès annuel des notaires qui se tenait à Paris et serait absent 2 jours. Elle venait de finir de décortiquer sa dernière crevette et tandis qu'Émilie, la cuisinière, s'affairait autour de la table, elle prit soudain la parole. « Je pars moi aussi, mais demain pour une cure de thalassothérapie de 15 jours en Bretagne. » « Si toutefois tu acceptes de régler les frais de mon séjour, » lui lança-t-elle alors le visage fermé. Il n'y voyait pas d'inconvénient, bien au contraire. Elle avait ajouté que ce serait la dernière dépense qu'elle lui ferait faire, et il la croyait. Là-bas, au moins, elle ne serait pas tentée de courir les antiquaires et les salles de vente, et à son retour, le divorce serait prononcé. Elle quitta le château le lendemain très tôt, alors qu'Émilie et la femme de ménage arrivaient pour prendre leur service. Romain, qui s'apprêtait à partir travailler, la regarda monter rapidement dans sa voiture sans même adresser un regard aux 2 femmes qu'elle venait de croiser. Tandis que les 2 employés, après l'avoir salué, passaient la porte d'entrée, il entendit l'une d'elles souffler à l'autre. « 15 jours sans avoir cette pimpèche sur le dos, ça va nous faire le plus grand bien. Ces aristos sont insupportables. On dirait qu'ils ont oublié la révolution de 1789. » Romain sourit. Il n'était donc pas le seul à se réjouir de l'éloignement de la maîtresse de maison. Il revint au château ce soir-là en sifflotant. Il allait bientôt retrouver sa liberté et cette perspective l'enthousiasmait. Depuis son mariage, il avait cessé de courir le jupon. Non que l'envie lui en soit passée, car il n'avait jamais été amoureux de Gersande, mais parce que les folles dépenses de cette dernière accaparaient toutes ses pensées. Sitôt redevenu célibataire, il comptait bien rattraper le temps perdu. En s'engageant dans l'allée, il eut cependant un petit pincement au cœur. Il devait reconnaître que les efforts de réhabilitation du domaine qu'avait entrepris son épouse étaient à saluer. Celui-ci reprenait vie et il regretta de ne pas être milliardaire. « Si seulement j'avais les moyens de l'entretenir, ce sera dans une autre vie », soupira-t-il. Émilie lui avait préparé un petit plat dont elle le savait friand. À l'évidence, elle le préférait à sa patronne. Il était 20h passées lorsque, finissant de dîner, il entendit soudain les premiers coups de tonnerre d'un orage qui s'annonçait violent. Pour remercier sa cuisinière de sa sollicitude, il lui proposa de lui offrir un taxi pour la ramener chez elle. « Vous êtes toujours la dernière à vous en aller. Vos collègues sont depuis longtemps rentrés chez eux et je m'en voudrais de vous laisser partir à vélo sous ce déluge. » Ravie, elle ne se fit pas prier et quand le taxi stoppa devant le perron, elle s'y engouffra sans perdre une seconde. « À dans 2 jours, monsieur. Je vous souhaite un bon congrès et merci 1000 fois pour cette gentille attention. » Romain demeura un instant à regarder le véhicule s'éloigner dans l'allée, illuminé comme en plein jour par les éclairs. Puis il se tourna vers les écuries où il entendait les chevaux s'agiter, apeurés par l'orage. Le vent s'était levé et tordait à présent la cime des cèdres centenaires qui peuplaient le parc. Leur feuillage bruissait en émettant des sifflements sinistres. Il rentra, surpris de ressentir un certain malaise à se retrouver seul. Les retours tardifs de son épouse l'y avaient pourtant accoutumé, mais cette fois, c'était différent. Elle ne reviendrait pas avant 15 jours et il passerait sa première nuit sans personne. Dans le petit salon où il se réfugia, un feu avait été allumé à son intention dans la cheminée par la femme de ménage avant que celle-ci ne s'en aille. Il finissait de se consumer et il entreprit de le ranimer en y ajoutant 2 bûches. De belles flammes dorées s'élevèrent très vite. Elles émettaient des crépitements qui, à son grand soulagement, couvrirent aussitôt les sons lugubres provenant du dehors. Avant de s'installer dans l'un des gros fauteuils de cuir placés devant l'âtre, il se dirigea vers le meuble où se trouvaient les liqueurs et autres alcools que l'on servait aux invités. Il marqua sa déception par un grognement en ouvrant celui-ci. Le cognac manquait. « Inutile de chercher le fautif », soupira-t-il en refermant la porte. « Notre député s'est endormi dessus lors de la réception du mois dernier. » Il regretta son geste de générosité envers Émilie. C'était elle la responsable du réassortiment et elle roulait à présent paisiblement dans son taxi, le laissant se débrouiller seul. Il n'était jamais descendu à la cave. L'escalier qui y menait était dans l'obscurité totale et il dut chercher à tâtons l'interrupteur. Il s'en voulut de ne jamais avoir eu la curiosité de s'y rendre quand il découvrit, ébahi, le trésor qu'elle recelait. Un bon millier de bouteilles alignées sur des clayettes, répertoriées par région et dont la lecture de certaines étiquettes le fit siffler d'admiration. Mon prédécesseur n'était peut-être pas un aristocrate, mais il en avait en tout cas les goûts. Gersande aurait pu me dire que nous possédions ces grands crus, j'aurais eu un succès fou auprès de mes invités. Comme il avançait plus avant dans la cave à la recherche du cognac, son pied buta sur une inégalité du sol. Il faut que je dise à ma future ex-épouse de penser à faire tasser la terre. En trébuchant, l'une de ces précieuses bouteilles pourrait très bien glisser des mains. Ce serait vraiment dommage. Il jeta un coup d'œil à l'endroit où il avait buté et remarqua que celui-ci était tout bosselé sur une surface d'environ 1 mètre sur 2 et ne présentait pas la même couleur que le sol alentour. Intrigué, il se mit à genoux et tâta la terre. Elle était meuble. 1 mètre de large sur 2 de long, ça ressemble à s'y méprendre à une tombe improvisée, s'exclama-t-il. Désirant en avoir le cœur net, il chercha du regard un objet qui lui permettrait de creuser la terre. C'est après avoir fait un demi-tour sur lui-même qu'il découvrit Gersande, qui, depuis le bas de l'escalier, lui adressait un petit signe de la main. Qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais à ta cure. Eh oui, comme tout le monde, répondit-elle en le gratifiant d'un gentil sourire. C'est bien ce que j'escomptais. Mais félicitations, tu es perspicace. Il s'agit bien d'une tombe, celle de Michel, mon ex. Il était trop lourd à transporter jusqu'à la rivière, aussi me suis-je contenté d'y jeter sa canne à pêche en y accrochant un morceau de sa chemise. Et puis avec une balle dans la tête, il aurait été difficile de faire passer ça pour une noyade, tu ne crois pas ? Romain, atterré, ne trouvait rien à répondre et se contenta de la laisser poursuivre. Il m'avait confisqué ma carte bancaire, figure-toi, et je devais passer par lui pour la moindre de mes dépenses. Tout comme avec toi maintenant. Ce ne sont pas des manières de traiter son épouse. Heureusement, j'ai fait la connaissance, lors de l'une de ces soirées VIP où je me rends depuis quelque temps, de quelqu'un qui semble vouloir se montrer bien plus généreux que vous deux. Elle avait sorti un revolver de son sac et Romain recula d'un pas tandis qu'elle poursuivait. Notre personnel me croit parti depuis hier. Ils ne s'étonneront pas non plus de ne pas te voir demain puisque tu dois prendre la route dès l'aube pour ton congrès. Elle désigna alors du menton le rectangle de terre. Je t'aurais bien enterré auprès de Michel, vous vous seriez tenu compagnie. Mais je crains que la police ne commence à avoir des doutes. De Marie dont on ne retrouve pas le corps, cela suscite des questions. Tu périras donc dans un terrible accident de la route et l'on ne retrouvera de toi qu'un tas de cendres au milieu d'un amas de tôles carbonisées. Tu es bien plus léger que Michel, ça ne devrait pas être un problème de te traîner jusqu'à la voiture. Tandis qu'elle parlait, Romain réfléchissait. Elle était trop éloignée de lui pour tirer avec précision. Elle allait devoir s'engager plus avant dans la cave et c'est ce qu'elle fit. Alors qu'elle dirigeait son arme sur lui, il fit un pas de côté et attrapant à deux mains l'une des énormes étagères où une cinquantaine de bouteilles étaient alignées, la fit basculer. Elle s'écrasa lourdement au sol avant que Gerson ait pu s'écarter. Quel gâchis! Tous ces millésimes perdus à jamais, soupira-t-il en guise d'épitaphe avant de remonter prévenir la police. La vie était presque belle. Il avait été acquitté pour légitime défense. Il était veuf et châtelain à part entière. Mais restait pour lui le douloureux problème financier. Comment entretenir un domaine aussi onéreux? Une nouvelle cliente venait de se présenter à son étude. Un laideron capricieuse et arrogante, mais riche héritière, qu'il entreprit aussitôt de séduire. Après tout, l'idée de son ex-femme n'avait pas été si mauvaise, et la cave demeurait l'endroit idéal pour une sépulture. La nouvelle épouse, en plus d'être laide, hautaine et lunatique, se montrait méfiante. Aussi, lorsqu'un soir Romain l'entraîna à la cave, se recula-t-elle un temps, laissant un énorme rayonnage rempli de bouteilles retomber sur son mari, dont la manche de veste s'était malencontreusement prise dans une clayette.
Vous avez écouté
Volte-face, une nouvelle de Paola Cecilia Lanzi.
Retrouvez tous les polars de pleine vie sur notre site internet et sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en laissant une note et un commentaire et en le partageant auprès de vos amis.